Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 2 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici des titres. 9 personnes, dont des militaires, ont été arrêtées au Bénin pour une présumée tentative de coup d'État avorté. Au Niger, 10 humanitaires enlevés le 24 juin ont été libérés, d'après le gouverneur de la région de Tillaberi. 2 morts dans des heurts entre l'armée éthiopienne et des civils lors des funérailles du chanteur Hachalou Ndessa. En Russie, victoire du oui au référendum constitutionnel, autorisant Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Bénin, 9 personnes, dont des militaires, ont été arrêtées et comparaîtront devant une cour spéciale pour avoir posé des actes contraires à la paix, susceptibles de revêtir la qualification de terrorisme, a déclaré hier soir le porte-parole du gouvernement. Les précisions avec Eki Abadou.
Certains de nos compatriotes ont effectivement été déférés devant la juridiction compétente, celle en charge des actes de terrorisme, a affirmé Alain Arulna, porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. Il précise toutefois que l'affaire est en phase d'instruction et rien ne confirme que ces individus s'apprêtaient à perpétrer quoi que ce soit. Selon la CRIET, une cour de justice spéciale, 9 militaires et des civils, dont le chauffeur du colonel Montan Kérékou, fils de l'ancien président Mathieu Kérékou, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils ont été mis sur écoute et ils étaient surveillés à leur insu. Le projet était avancé et ils envisageaient d'aller au Nigeria acheter des armes, assure l'instruction. Un magazine français a publié récemment un article faisant état d'une tentative de coup d'État avortée au Bénin. Ce serait la 2e tentative sous la présidence de Patrice Talon.
9 marins nigériens ont été enlevés lors d'une attaque de pirates ce jeudi contre un navire norvégien croisant au large du Nigeria. Le Senje Berge se trouvait sur le champ pétrolier d'Okuori pour le compte de la société chinoise Adax Petroleum lorsqu'il a été attaqué, a indiqué l'armateur BW Offshore. Au Niger, 10 travailleurs de l'ONG Action et Programme d'Impact au Sahel, enlevés le 24 juin, ont été libérés, a annoncé le gouverneur de la région de Tillaberi. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Très peu d'informations filtrent pour le moment sur l'opération qui a conduit à la libération des 10 travailleurs humanitaires. D'après Tidjani Ibrahim Katiela, gouverneur de la région de Tillaberi, ils ont été libérés hier. Je ne peux rien dire, on ne les a pas encore vus, a de son côté déclaré Kadidiatou Haruna, la responsable de l'ONG APIS pour qui travaillent ces humanitaires. Selon cette ONG, les 10 humanitaires avaient été enlevés le 24 juin par des djihadistes armés et à moto alors qu'ils distribuaient des vivres aux populations d'un hameau de la commune de Makalondi. Les ravisseurs avaient aussi emporté 2 véhicules tout-terrain. C'était le premier enlèvement humanitaire de ce genre, enregistré dans cette zone très instable, située entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La circulation des motos y est interdite de jour et de nuit depuis le mois de janvier pour tenter de prévenir les déplacements de djihadistes. En plus des armées locales, plus de 5000 militaires français et la force Barkhane sont déployés dans cette vaste zone qui reste le théâtre d'attaques régulières et de plus en plus meurtrières de groupes terroristes.
La Côte d'Ivoire a rendu hommage aujourd'hui à 14 soldats tués dans une attaque djihadiste le 10 juin. Les militaires ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume en présence de leur famille, du président Alassane Ouattara et de plusieurs ministres et officiels dont le commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, le colonel Frédéric Gauthier. Les élections législatives au Tchad sont programmées pour le 24 octobre 2021, soit 6 mois après la présidentielle fixée au 11 avril. L'actuelle Assemblée nationale avait été élue en 2011 et devait être renouvelée en 2015. Le président Idriss Déby a repoussé 5 fois le scrutin, invoquant la menace djihadiste, les difficultés financières et l'épidémie de coronavirus. Les États-Unis ont envoyé hier un émissaire assister à la fête nationale du Burundi. L'ambassadeur Peter Pham s'est adressé à la presse après sa rencontre avec le nouveau président Évariste Ndayishimiye à Bujumbura.
En tant qu'envoyé spécial des États-Unis,
pour transmettre à son Excellence le Président de la République une lettre de son homologue américain à le Président Trump, félicitant le Président et le Burundais dans la fête d'indépendance et souhaitant que dans l'avenir nous puissions travailler ensemble afin d'achever les objectifs communs de nos deux pays, la prospérité, la paix, la stabilité, le bonheur de tous les peuples et aussi l'aspiration du peuple américain et le peuple burundais de vivre harmonie, de vivre ensemble dans la famille des nations et de voir l'opportunité de jouer les droits et la dignité, l'aspiration humaine.
L'homme d'affaires israélien Dan Gertler, proche de l'ex-président congolais Joseph Kabila, a contourné des sanctions américaines en s'appuyant sur un réseau international de blanchiment d'argent, affirment deux ONG. Washington l'accuse d'avoir fait perdre à la RDC 1,36 milliard de dollars de recettes fiscales. Gertler aurait pu acquérir de nouveaux actifs miniers en RDC, selon Global Witness et la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Deux personnes sont mortes aujourd'hui dans des heurts entre l'armée éthiopienne et des personnes qui cherchaient à assister aux funérailles du chanteur Hachalu Hundessa. Son meurtre a déclenché des manifestations qui ont fait 90 morts. Eric Manirakiza.
Les funérailles, retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision, ont eu lieu à Ambo, la ville natale du chanteur Hachalu Hundessa, à environ 100 km à l'ouest de Addis Abeba. À peine 500 personnes étaient réunies dans un stade de football pour un court service funèbre. Des cavaliers en habits traditionnels ont paradé avec une fanfare avant que le corbillard entre dans le stade. Le cercueil a ensuite été porté en présence de quelques proches vers l'église où la cérémonie a duré une vingtaine de minutes avant la mise en terre. Là, des jeunes hommes arborant des t-shirts noirs avec le portrait du chanteur ont laissé éclater leur tristesse. Le chanteur Hachalu Hundessa, membre de l'ethnie Oromo majoritaire dans le pays, a été tué par balle lundi soir à Addis Abeba pour un motif encore inconnu. Il a été le porte-voix des Oromo pendant les manifestations pour dénoncer leur marginalisation économique et politique.
La justice algérienne a relâché quatre militants du Irak, Karim Tabou, Amira Barawi, Samir Benlarbi et Slimane Amitouche, ont bénéficié d'une remise en liberté provisoire. Emprisonné depuis 7 mois, Karim Tabou avait été condamné le 24 mars à un an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire. Alger va récupérer les restes de 24 combattants algériens tués lors de la colonisation française, a annoncé le président Abdelmadjid Tebboune. Les dépouilles seront ramenées par des avions de l'armée algérienne en provenance de France, a précisé M. Tebboune lors d'une cérémonie militaire de remise de grade.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La contagion du coronavirus atteint des records dans le monde. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas dépasse les 160 000 par jour, selon l'OMS. Le continent américain recense 2,7 millions de personnes infectées sur 10,7 millions dans le monde. Pays le plus endeuillé de la planète avec 128 000 décès, les États-Unis ont atteint mercredi un nouveau record avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le Kremlin s'est félicité d'un triomphe au référendum constitutionnel qui permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036, un scrutin contesté par l'opposition alors qu'une seule région de la Russie s'est opposée à la réforme. John Lyndon.
Ce vote étalé sur une semaine s'est conclu officiellement sur une victoire du oui à 77,92%. Un référendum triomphal de confiance envers le président Poutine, selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Par contre, l'opposant Alexei Navalny a qualifié ce vote d'énorme mensonge, appelant ses partisans à se mobiliser pour les prochaines élections régionales en septembre prochain. L'un des amendements les plus controversés donne à Vladimir Poutine l'option de deux mandats supplémentaires à l'issue de l'actuel en 2024. Il aura ainsi la possibilité de rester au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. La révision introduit aussi dans la Constitution des principes conservateurs chers au président Poutine, tels que la foi en Dieu, le mariage réservé aux hétérosexuels, l'enseignement patriotique, ainsi que des garanties sociales comme l'indexation des retraites. Dans un communiqué, l'ONG Golos, spécialisée dans l'observation des élections, a dénoncé ce jeudi un exemple sans précédent d'atteinte à la souveraineté du peuple russe.
L'Inde a félicité la Russie pour ce référendum. Les États-Unis se sont dit préoccupés, eux, par les conditions de son déroulement et particulièrement inquiets de l'amendement qui permettrait potentiellement au président Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036, a dit la porte-parole du département d'État, Morgan Ortagus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ikiabadou.
Les quarantaines dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient menacent le transport aérien avec de possibles pertes et faillites de compagnies aériennes, a mis en garde jeudi l'Association internationale du transport aérien. Un responsable de IATA, Mohamed El Bakri, a exhorté les gouvernements à fournir une aide financière urgente aux compagnies dont beaucoup risquent de s'effondrer selon lui. L'Association africaine des compagnies aériennes prévoit une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 milliards de dollars pour les compagnies aériennes africaines sur l'ensemble de l'année. La polémique enfle sur les critères retenus par l'Union européenne pour élaborer sa liste de pays autorisés à entrer dans l'espace Schengen à compter du 1er juillet. En Afrique, seuls l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie sont concernés. L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin, un record sur un mois grâce à la réouverture des commerces, des bars et restaurants, ce qui a permis une baisse du chômage plus importante que prévu, a annoncé vendredi le Département du Travail. Le taux de chômage s'établit à 11,1% contre 13,3% en mai. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont établies à 1 427 000 la semaine dernière.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le défenseur latéral marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui était prêté depuis 2 ans au Borussia Dortmund en Allemagne, a été transféré à l'Inter Milan. Achraf Hakimi est officiellement un joueur de l'Inter, a écrit le club milanais dans un communiqué. Le Marocain de 21 ans a signé un contrat de 5 ans, précise le club italien. Ni le Real Madrid ni l'Inter Milan n'ont donné de détails financiers sur le transfert, mais selon les médias italiens, l'opération se serait bouclée autour de 40 millions d'euros, plus des bonus estimés à 5 millions d'euros. Né à Madrid, Hakimi possède la double nationalité marocaine et espagnole et a intégré l'école de football du Real dès ses 8 ans. Au Ghana, l'édition 2019-2020 du championnat de football a été annulée par le comité exécutif de la fédération. Les clubs ont déjà joué 15 matchs sur 34 et les Adoana Stars menaient le championnat d'un point quand il a été arrêté à la mi-mars. Conséquence de cette annulation, la fédération ghanéenne a décidé de conserver les mêmes représentants que l'an dernier dans les compétitions continentales. Ashanti Kotoko disputera donc en 2020-2021 la Ligue des Champions, qu'elle a déjà remportée 2 fois, alors que Ashanti Gold jouera la Coupe de la Confédération. Ici aux États-Unis, 6 joueurs du FC Dallas ont été testés positifs au nouveau coronavirus à leur arrivée à Orlando pour participer à la phase finale de la MLS. Le tournoi de reprise du championnat américain doit débuter le 8 juillet. Après presque 4 mois d'interruption, les 26 équipes devront rester à Disney World, isolées du monde extérieur et jouer leurs matchs sans spectateurs. Aucun autre club de la MLS n'a été en contact avec les joueurs de Dallas depuis leur arrivée, a précisé la MLS. La Floride connaît une recrudescence de l'épidémie ces derniers jours. Athlétisme, pour finir, la Fédération internationale a gelé provisoirement le processus de réintégration des athlètes russes sous bannière neutre suite à la décision de la Fédération russe RUSAF de ne pas payer à temps l'amende infligée pour violation des règles antidopage. Le président de la Fédération russe, Evgeny Ivchenko, a évoqué, je cite, un manque de ressources financières en raison du coronavirus et de la situation économique difficile dans le monde.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le militant anti-esclavage Biram Ould Abeid dénonce le silence des Africains sur le sort des Mauritaniens victimes de discrimination. Alors que la mort de George Floyd aux États-Unis a suscité l'indignation à travers le monde, y compris en Afrique, il s'est aussi prononcé sur le rapport du département d'État sur le trafic humain dans lequel la Mauritanie progresse légèrement, passant de la troisième à la deuxième catégorie. Biram Ould Abeid est joint à Nouakchott par Abdourahmane Dia.
Bon, le pays n'a fait aucun progrès dans la lutte contre l'esclavage, ni pour l'amélioration de l'état de droit, ni pour l'amélioration des droits de l'homme. Mais on assiste seulement à un enfumage de la délégation américaine ou des chercheurs américains. En tout cas, moi j'ai vu que les recommandations des États-Unis restent des recommandations très fortes concernant l'esclavage, concernant le racisme d'État, concernant la tentative de génocide qui a envahi les Noirs, concernant le trafic des êtres humains. Et je pense que nous sommes en recul même sur les droits de l'homme en Mauritanie au cours de l'année 2020.
Ce mouvement Black Lives Matter qui est né ici aux États-Unis pour lutter contre les discriminations, est-ce qu'il y a justement un parallèle à faire avec la Mauritanie?
Bien sûr que vous avez, que nous avons ici nos George Floyd. Il y a le jeune Abbas Diallo qui a été froidement abattu par l'armée mauritanienne au cours d'une patrouille ordinaire. On a assisté aussi au jeune Abou Djibi Diop qui a été pris dans la même position d'étranglement par le genou autour du cou qui a été fait par des policiers ici il y a deux semaines dans un quartier de Nouakchott, un quartier populaire. Voilà.
Est-ce que selon vous, justement, le cas mauritanien attire suffisamment l'attention de la communauté internationale et même de l'Afrique?
Le cas mauritanien n'attire pas suffisamment l'attention de l'Afrique parce qu'il y a une complicité entre les élites africaines et les élites afro-américaines et les élites arabo-islamique sur l'esclavage et la traite orientale, la traite arabo-musulmane, l'oppression des personnes d'ascendance africaine au sein du monde arabo-musulman, c'est une oppression qui a toujours été niée, cachée et reléguée au profit d'une union sacrée contre les crimes de l'homme blanc, l'esclavage de l'homme blanc, l'apartheid de l'homme blanc et l'impérialisme de l'homme blanc.
L'Union devrait prendre ces questions beaucoup plus au sérieux, selon vous?
J'avais dit que l'Union africaine est dans le cadre de ce deal de complicité par le silence avec l'élite politique arabo-musulmane.
C'était le député et opposant mauritanien Biram Ould Abeid. Amnesty International appelle les autorités congolaises à libérer de toute urgence et sans condition le général Jean-Marie Michel Mokoko et cinq autres prisonniers d'opinion. Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Alors il y a deux raisons à cet appel. Il y a une raison déjà ancienne, malheureusement, qui est le fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en détention arbitraire depuis sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le groupe des Nations Unies sur la détention arbitraire avait considéré dans son avis de 2018 cette détention justement comme arbitraire pour une série de raisons qui ont été développées dans cet avis et avait appelé à le libérer immédiatement et sans condition. C'est la première raison plus ancienne. La raison plus récente, c'est à cause de la pandémie Covid-19 qui touche la République du Congo comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Et là encore, dans l'appel de l'appel qu'avaient fait les Nations Unies il y a quelques mois, eh bien nous appelons à libérer les détenus les plus fragiles, les détenus malades dont la santé est un problème dans ce contexte de pandémie. Et c'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, selon ses proches et ses avocats que nous avons pu contacter. Le général a fait un malaise il y a quelques jours et donc cette situation est d'autant plus urgente aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que les autorités congolaises vont répondre à votre appel?
Nous le souhaitons. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent penser que ce ne sera pas une évidence. Mais voilà, il faut toujours rappeler le droit, ce qui a été dit. La détention de Jean-Marie Michel Mokoko est arbitraire. Ça a été dit. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, dans un discours à la Nation à la fin 2019, avait expliqué qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Congo et qu'il n'y avait que des politiciens condamnés pour des délits de droit commun. Les faits montrent le contraire. C'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, mais c'est aussi le cas de d'autres personnes, notamment de M. Salissa, qui a en commun avec M. Mokoko d'avoir été condamné et d'avoir été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Ce que nous avons également voulu souligner dans ce communiqué, c'est également le cas de 4 sympathisants du mouvement Incarner l'Espoir, qui sont également détenus depuis de longs mois et dont la détention est devenue arbitraire il y a quelques jours de cela, puisque le délai de détention provisoire a été dépassé. Voilà, tous ces éléments montrent que, comme c'est le cas depuis plusieurs années au Congo, il y a tout simplement une volonté de réprimer la dissidence au Congo, quelles que soient ses formes, que ce soit par le simple fait de s'exprimer contre le gouvernement ou par le simple fait d'appartenir à une organisation susceptible de pouvoir émettre des voix critiques envers le gouvernement.
Au-delà de cet appel, est-ce que vous envisagez d'autres mécanismes pour obtenir la libération de M. Mokoko et des autres prisonniers d'opinion dont vous avez cité?
Plusieurs organisations suivent le cas de M. Mokoko et des autres. La saisine du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait déjà été faite il y a plusieurs années, que les avis ont été mis en 2018. Les solutions sont limitées et évidemment la solution viendra des autorités congolaises. C'est les principaux moyens qui ont été utilisés jusqu'à présent. Voilà, on est avec un État congolais qui est particulièrement dur avec les opposants et qui réprime de façon particulièrement systématique. Donc tout n'est pas possible, mais il faut rappeler dès que c'est possible le droit, ce qui existe, et que ces personnes sont détenues alors qu'elles n'ont absolument rien à faire dans ces prisons aujourd'hui.
Fabien Hoffner est chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le Burkina Faso a enregistré l'installation de la première unité de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques de haute qualité dénommée Faso Énergie. Le pays bénéficie d'un fort ensoleillement mais fait face à d'énormes défis énergétiques. Les initiateurs de ce projet veulent ainsi exploiter ce soleil au profit des populations. L'initiative est saluée par les responsables du secteur de l'énergie. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Zone industrielle du quartier Kossodo de Ouagadougou, c'est là qu'est située l'unité de production de panneaux solaires Faso Énergie. Ici, des machines de dernière génération. Toute la chaîne de production est une technologie d'origine européenne. À la clé, des plaques solaires de 260 watts à plus de 330 watts sont produites. Seule la matière première est importée.
Les panneaux sont fabriqués sur place ici, à l'usine, à Kossodo, plus précisément à Faso Énergie.
Sébastien Ouedraogo, responsable technique de Faso Énergie.
C'est pas un assemblage, c'est une fabrication. Nous fabriquons les panneaux sur place ici. Donc nous pouvons voir la ligne de production à l'intérieur de l'usine. C'est que nous avons les opérateurs, les techniciens qui sont là pour la fabrication des panneaux.
La capacité de production de l'usine est de 80 à 120 MW annuels et une capacité de production journalière de 60 à 100 panneaux photovoltaïques par jour. Les plaques solaires de Faso Énergie respectent tous les standards internationaux, selon le responsable technique.
C'est des panneaux de qualité qui répondent aux normes européennes donc qui sont fabriqués ici au Burkina. Nos panneaux ici sont certifiés TUV allemand. Et actuellement, nous utilisons la dernière technologie des panneaux que nous retrouvons sur le marché, avec une technologie de 5 bus bar sur les cellules.
Le soleil en abondance au Burkina et dans la plupart des pays de la sous-région a poussé les responsables de Faso Énergie à lancer ce projet. Jérémy Zoumouda, directeur général de Faso Énergie.
Nous avons un potentiel solaire qui arrive sur le pays, qui est l'un des plus importants en Afrique et dont il faut profiter. Au lieu de prendre ça comme un calvaire, je dirais qu'il faut pouvoir en tirer profit.
Les panneaux de Faso Énergie sont approuvés par ANERE, Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, organisme de promotion des énergies renouvelables et de contrôle qualité rattaché au ministère de l'Énergie.
Avoir une usine localement qui œuvre dans la production des panneaux solaires, vraiment c'est une excellente idée.
Issouf Zungrana, directeur général de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Cette initiative permettrait aux populations de pouvoir disposer d'équipements solaires, de plaques solaires de qualité pour pouvoir profiter des services énergétiques. Notre mission, c'est de faire de la facilitation. Comment accompagner cette structure-là sur le plan technique et également sur le plan commercial pour qu'elle puisse se développer.
Faso Énergie a créé 170 emplois directs et plus de 1200 emplois indirects, selon ses responsables. L'usine dit rester engagée à produire des panneaux solaires au profit des Burkinabés et aussi l'Afrique de l'Ouest. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Après des mois de restrictions dues au coronavirus, l'Union européenne a commencé à rouvrir ses frontières aux visiteurs de 14 pays. Les États-Unis, où le virus est revenu en force dans certains États, ne sont pas sur la liste. Les Américains ne peuvent ainsi plus se rendre à Paris, destination touristique la plus prisée au monde. Un reportage de Lisa Bryant dans la capitale française. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les rues de Paris et les sites touristiques sont inhabituellement calmes. Les touristes locaux sont là, mais avec les interdictions de voyager, il y a peu d'étrangers et pas d'Américains. Rosemary Flannery tient une librairie populaire en langue anglaise. Elle est aussi auteure et guide touristique.
Ce fut un grand choc découvrir au mois de mars que tout a été annulé. Toutes les personnes qui devaient venir pour les vacances de Pâques, tous ceux qui allaient venir l'été et même ceux qui allaient venir en septembre, tous les voyages ont été annulés.
Le tourisme est une manne pour Paris. Il emploie près de 10% de la main-d'œuvre de la région. Les touristes américains sont méprisés à travers l'Europe qui accueille environ 15 millions de voyageurs étrangers chaque année. Rosemary Flannery témoigne.
Les touristes américains sont super. Honnêtement, je pense qu'ils sont les meilleurs. Ils adorent Paris. Ils sont fous de la France. Ils sont très enchantés par la vie, la nourriture, la Seine et par la beauté de l'architecture.
Pour l'heure, les Américains ne sont pas sous la liste des voyageurs autorisés par l'Union européenne. Bruxelles promet de revoir cette liste régulièrement, en ajoutant ou en enlevant des pays en fonction de leur situation sanitaire. En juin, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis travaillent avec l'Union européenne pour une ouverture des frontières en toute sécurité.
Je pense que nous prenons tous au sérieux la nécessité de trouver le moyen d'ouvrir. Nous devons relancer l'économie mondiale. Nous allons travailler pour bien faire les choses. Nous voulons nous assurer que tout soit fondé sur la science, sur la santé.
Fixer les restrictions de voyage n'a pas été simple. Lorsque l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie en mars, Washington a interdit les visiteurs européens. Bruxelles a rendu pareil à présent que les cas diminuent dans les pays européens et augmentent dans certaines parties de l'Amérique. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors.
D'une certaine manière, cela peut être considéré comme une explication que l'Europe n'a pas été très impressionnée par les mesures prises par les États-Unis. Mais il y a aussi une certaine réciprocité. Si les États-Unis maintiennent leur interdiction pour les Européens, nous garderons également la nôtre.
Quelle que soit la direction que prendront les relations transatlantiques, beaucoup de Parisiens, les tenanciers de bars et restaurants en particulier, espèrent et attendent vivement le retour des Américains.
Abdourahmane Dia avec vous.
Cette semaine dans Washington Forum, à plus de 4 mois de la présidentielle américaine, le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden sont à l'assaut des électeurs. Une campagne qui se tient alors que les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19. À quelques semaines des conventions républicaines et démocrates, la gestion de la pandémie, l'économie et la question raciale semblent dominer les débats. Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 2 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.